C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant sur Vivre FM.
On entend régulièrement parler de la souffrance du personnel soignant et des difficultés pour recruter dans ces métiers. Une partie des personnels travaille dans les hôpitaux. Il a pu voir sa rémunération être revalorisée, mais ce n'est pas le cas de tous. Et les départs de soignants des établissements du secteur médico-social ne sont pas comblés par de nouvelles embauches. En tout cas, c'est souvent le cas. D'où une dégradation des conditions de travail et de la qualité des soins. Il est urgent d'agir. D'ailleurs, un film documentaire sort sur le sujet. Il se nomme Personne. On va en parler. On va aussi voir pourquoi tant de soignants quittent leur travail et qu'est-ce qui pourrait les retenir.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Isabelle Bonreno, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'ARIMOC, des établissements qui gèrent des personnes avec paralysie cérébrale dans la région de Pau. Vous êtes face à Jacques Vagnoni. Bonjour Jacques.
Bonjour, c'est Jackie. Hein. C'est pas mon petit nom, Jackie.
C'est Jackie, voilà.
C'est Jackie, c'est mon nom.
Très bien, Jackie, donc Vagnoni, président de Paralysie Cérébrale France, une fédération qui regroupe des structures associatives, des structures, des établissements comme les établissements de l'ARIMOC. Et tous les deux, vous êtes concernés par cette situation, ce manque de personnel soignant, ces conditions difficiles de travail. Qui veut commencer, Jacques ?
Oui, alors en tant que président de Paralysie Cérébrale France, je suis moi au quotidien dans les établissements. Je pense qu'Isabelle Moreno et les autres invités pourront en parler mieux que moi. Mais bon, d'une part, je suis papa d'un jeune homme qui vit avec une paralysie cérébrale. J'allais dire, les difficultés du secteur impactent directement les personnes. On pourra en reparler, bien sûr. Mais aussi, bien entendu, nous sommes attachés au meilleur accompagnement possible des personnes, à leur épanouissement. Et avec cette crise de l'accompagnement, les projets personnels sont arrêtés, il faut bien le dire.
Oui, ça a impacté par exemple la vie de votre fils ?
Alors, mon fils travaille en ESAT, il travaille de manière partielle, alors directement non, mais il n'empêche que le climat à l'intérieur des services, des établissements, s'est détérioré parce que les difficultés sont réelles et parce que, l'ensemble des personnes accompagnées et de leurs accompagnants, souffrent, on va le dire comme ça.
Oui, Isabelle, vous constatez la même chose ?
Oui, et là, plutôt de façon assez prégnante. On a assisté au cours des derniers mois à une sorte de dérégulation du secteur. Parce que l'extension du Ségur ne s'est pas tout de suite opérée vers le secteur médico-social, puis elle s'est opérée de façon partielle vers les soignants. Avec un doute qui subsistait à l'époque, à savoir, je suis soignant dans un établissement financé par l'ARS, je perçois le Ségur, mais je suis soignant dans un établissement géré par le département, est-ce que je vais le percevoir ? Il y a eu une avancée sur ce domaine-là, donc à la fois les établissements financés par le département et par l'ARS financent les soignants de la même manière, mais on s'est confronté à un deuxième type de dérégulation, celle des personnels socio-éducatifs, logistiques et administratifs qui n'étaient pas concernés par cette extension du Ségur. Puis les dernières annonces de notre Premier ministre nous ont redonné un peu d'optimisme puisque toute la filière du social et de l'éducatif va être concernée. Mais on assiste à nouveau à des personnes qui sont exclues de ces mesures et ça crée des ambiances extrêmement tendues en interne.
Oui.
Tous ces mois passés, on fait qu'on a eu énormément de personnes qui ont quitté les structures. Donc on a proposé les postes aux remplaçants et aujourd'hui on est à court de remplaçants. Donc pour tout dire, on ne sait pas comment on va réussir, les chefs de service et directeurs adjoints ne savent pas comment ils vont réussir à remplacer sur les périodes d'avril, là c'est avril et cet été c'est le cauchemar pour tout le monde.
Oui.
Donc je commence à constater là une première démission, une cadre de santé directrice adjointe qui était détachée de l'hôpital qui repart à l'hôpital sur des missions de certification parce qu'elle n'en peut plus de gérer la RH. Elle me le disait, ça fait 19 ans que je gère des ressources humaines, je n'en peux plus. Cette tension permanente fait que je ne peux plus. Donc elle part vers un poste un peu plus administratif. Avec beaucoup de peine, parce que je pense qu'elle faisait un boulot remarquable à la RIMOC, et elle était attachée à la fois aux salariés et aux résidents, mais je crois qu'on assiste vraiment à des mécanismes d'usure importantes des professionnels, tant de l'encadrement que des professionnels qui travaillent au quotidien auprès des personnes accompagnées.
Oui, et vous pensez que c'est pire dans le secteur médico-social, dans les établissements comme les vôtres, qu'à l'hôpital, par exemple ?
Je ne peux pas juger parce que je ne suis pas dans le quotidien de l'hôpital. Et moi, je peux témoigner de ce que je vis au quotidien à la RIMOC et ce que je peux échanger avec les collègues du même secteur. Je n'ai pas envie de mettre les secteurs en concurrence, oui, parce que je pense que c'est des domaines extrêmement importants pour le bien-être de notre population. Et l'un ne s'oppose pas à l'autre. Je pense qu'on a dans notre société le devoir de prendre en compte en fait les professionnels des deux champs.
Oui, mais pourtant, on est mieux payé à l'hôpital que dans le secteur médico-social. Oui. Donc, il y a concurrence quand même, on vous prend du personnel.
Oui, il y a des fuites. Mais il y a des fuites aussi de salariés, ça c'est un peu plus préoccupant, vers des agences d'intérim. Et on voit qu'il y a aussi tout un mécanisme très libéral qui est en train de toucher nos structures.
Je
gagne mieux si je vais dans une agence d'intérim, je choisis mes horaires, les journées où je veux travailler, où je ne veux pas travailler. Et en plus, comme il y a pénurie, l'agence négocie les frais de déplacement. Et on voit là récemment qu'avec la flambée de l'essence, ça a son poids.
Oui, allez-y, Jacqueline.
Oui, il faut dire deux, trois choses qui vont bien montrer les difficultés. Aujourd'hui, dans le réseau de notre fédération, Paralysie Cérébrale France, c'est à peu près, alors c'est bien sûr un peu différent suivant les régions, mais c'est entre 25 et 30% de postes vacants. Il faut avoir ça en tête.
Et ça, c'est nouveau ?
Comment ?
C'est nouveau ?
Oui, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Alors, ce qu'il faut dire, alors, c'est les postes vacants. Je voulais juste dire une deuxième chose, mais Isabelle l'a déjà dit. C'est qu'en fait, ce qui est surtout, c'est qu'il s'est installé une concurrence entre le médico-social handicap, le médico-social personnes âgées et le sanitaire. Et donc, du coup, il y a une vraie, maintenant, le salarié peut dire où je vais travailler et qu'est-ce que je vais gagner. Juste les 183 euros nets, si on les multiplie par 12, ça fait plus de 2000 euros nets par an,
oui,
pour des salaires qui, somme toute, sont bas.
Oui.
Donc c'est énorme. Enfin, j'allais dire pour tout un chacun, enfin pour tout un chacun, c'est déjà une belle somme, mais là, véritablement, sur un secteur qui s'est paupérisé depuis 20 ans, qui a été mal revalorisé, eh bien, ce sont des sommes importantes.
Oui.
Et je terminerai juste, c'est que... provisoirement. Si vous voulez, nous, je l'ai noté, là, je l'ai encore en tête, le 26 novembre 2020, trois mois après la fin de la négociation du Ségur de la Santé, nous remettions un premier tableau à Sophie Cluzel qui monitorait déjà sur l'ensemble de l'association, enfin des associations membres, une fuite de personnel. Donc, vous voyez, 2020, un truc, ça fait un an, 18 mois maintenant, que même plus, 20 mois, qu'on alerte véritablement sur une difficulté, enfin j'allais dire une difficulté, une vraie difficulté qui s'annonçait déjà il y a 18 mois.
Oui.
Donc on tergiverse depuis 2 ans pour finalement rattraper une simple équité.
Alors cette revalorisation de 182 euros, c'est ça, du Ségur
3.
Est-ce qu'elle va être appliquée justement pour votre secteur, vos secteurs ?
Alors ce qu'on peut dire, mais Isabelle pourra vraiment compléter techniquement, ce qu'on peut dire qu'effectivement à la dernière conférence des métiers du 18 février, le Premier ministre a annoncé que donc pour, alors ça on le savait déjà, soignants du médico-social handicap, payé par l'assurance maladie, c'est un peu compliqué, mais voilà, payé par l'assurance maladie, payé par l'État, pour faire simple. Ça, c'est déjà acté depuis quelques mois.
Oui.
Deuxième chose, médico-social, personnel soignant, mais payé par le département, c'est acté. Personnel socio-éducatif, c'est-à-dire tout l'accompagnement social, là on n'est plus sur le soin, mais sur le social, Là, c'est aussi acté, donc ça va se mettre en place. Reste, et ça représente quand même 30%, 25 à 30% du personnel, toutes les fonctions support, transport, restauration et tout, administratif, eux ne sont pas dans ce paquet. Donc ça crée encore, j'allais dire, une vraie difficulté de management. Et disons-le, une difficulté aussi, tout simplement, d'ambiance dans les structures. Enfin, là, je pense qu'Isabelle
peut confirmer. Isabelle, il y a une mauvaise
ambiance. Alors, les mauvaises ambiances, on sent que c'est tendu entre les catégories professionnelles. Celles que vient de décrire Jackie sont souvent les professions les moins payées, les moins rémunérés de nos structures et qui bossent, je vais dire, sans trop qu'on les voit, parce que c'est eux qui...
Par exemple, donnez-nous des exemples de métiers.
Eh bien, les chauffeurs qui passent facilement 2 heures par jour dans les véhicules à transporter des personnes en situation de handicap.
Oui.
Les personnes qui entretiennent les locaux.
Oui.
Les lingères.
Oui.
Qui traitent des kilos et des kilos de linge par jour, les cuisiniers, on en a parlé, tout le secrétariat, les comptables, les gestionnaires de paye, secrétaires de direction, toute la RH, toutes les assistantes RH, tous ces professionnels-là ne sont pas du tout à ce jour considérés. Mais je crois savoir que la liste n'est encore pas finalisée. Je ne sais pas si ces personnels vont être intégrés à cette liste ou si la liste est en train de s'affiner autour des personnels socio-éducatifs, puisque dans la liste Lafourcade 2, il manquait des métiers comme éducateur sportif, par exemple, qui n'apparaissaient pas et qui font partie de cette filière. Donc aujourd'hui, on attend avec impatience que cette liste sorte pour qu'on puisse voir ce qu'on va pouvoir envisager pour ces personnels.
Oui, Jackie.
Oui, simplement pour dire que, parce qu'il faut être aussi précis, c'est mieux. Le secteur médico-social était depuis déjà quelques années un peu en difficulté structurelle.
Oui.
C'est vrai que je pense que Isabelle le confirmera. Il y avait moins de CV avant qui arrivaient spontanément. Les recrutements étaient plus difficiles, on va dire. Il y avait moins de choix.
Vrai, hein,
on peut le dire comme ça. Oui. Donc, c'est pas le Ségur qui est responsable de tout, mais le Ségur a été sûrement
un catalyseur.
Complètement catalyseur de la situation. Oui. C'est-à-dire il y avait quelque chose qui bouillait, si vous voulez, et ça a fait vraiment exploser la marmite, si je puis dire. Et donc du coup, on est bien dans quelque chose qui a accéléré la difficulté. Voilà, donc c'est vraiment ça le sujet. Hein. Le Ségur n'est pas responsable de tout, mais par contre, il a généré la situation parce qu'il a été mal pensé, il a été mal appliqué et qu'on a réalisé un peu tard que les décisions prises étaient, étaient totalement injustes et allaient complètement déséquilibrer l'ensemble.
Oui, et alors donc vous avez du mal à recruter des chauffeurs, des blanchisseurs, des
Alors des sur les professionnels logistiques, c'est... Oui, là on a un poste de chauffeur qui est vacant, on ne trouve pas, ça c'est une certitude. Mais là où c'est aussi problématique, c'est qu'on ne trouve pas d'infirmiers, on ne trouve pas d'aide-soignants, on ne trouve pas d'auxiliaires de vie. Enfin, tous ces métiers sont réellement... En grande tension, et ça date d'il y a un petit moment déjà, les écoles font plus le plein, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes motivées par ces métiers. Je pense que la question salariale est un point, on ne peut pas forcément penser que c'est le seul point, parce que c'est des métiers, dans le film documentaire, il y a une personne qui en parle vraiment de façon très fine et juste, elle dit que ce sont des métiers passion, sauf que ça fait plus de 15 ans, moi je suis en position de direction depuis 1995, ça fait plus de 15 ans que les revalorisations salariales sont vraiment très très modestes, donc là où un éducateur spécialiste avait un salaire correct il y a 15 ans. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Donc, ce n'est pas trop attractif non plus. Ben, ils vont commencer à 1500 euros. Alors qu'il y a quelques années en arrière, on était plutôt sur l'équivalent de 1800.
D'accord, oui.
Ouais. Enfin, si on rapporte...
Oui, avec l'évolution.
Voilà, c'est ça.
Voilà, exactement.
Oui.
Jackie ?
Oui, non, je disais, nous, depuis le début, on a un peu, pour simplifier le débat, on était sur deux points. Et donc le deuxième, il faudra peut-être l'aborder, mais on va avoir encore certainement des témoignages. C'est un, il faut arrêter l'hémorragie. Alors, l'argent ne fait pas tout, on ne vit pas que pour l'argent, mais là, véritablement, il y a depuis le départ quelque chose qui est tellement injuste et qui est vécu de manière tellement injuste qu'il faut envoyer un message fort et à tout le monde. C'était un peu l'idée du hashtag Ségur pour tous. Il faut penser bien sûr plus loin, il faut penser structurellement, reconstruire un peu ce secteur, parce que je pense qu'il faudra le reconstruire, et donc là, il faut se projeter dans l'avenir.
Oui, mais on va avoir deux témoignages de femmes qui sont infirmières et monitrices éducatrices. On va les avoir dans quelques minutes, juste après une pause sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Et on parle du manque de personnel catastrophique dans le secteur médico-social. On en parle avec Jackie Vagnoni, présidente de Paralysie Cérébrale France, une fédération qui regroupe des associations, des établissements qui traitent la paralysie cérébrale. Avec Isabelle Moreno, directrice de la RIMOC, établissement qui gère des personnes avec paralysie cérébrale dans la région de Pau. Et puis on va avoir deux témoins qui vont témoigner de leurs conditions de travail, notamment Nathalie Dutray. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Nathalie, vous êtes infirmière aux femmes, foyer d'accueil médicalisé Les Lilas à Lormont, donc c'est à Bordeaux. Vous êtes infirmière depuis combien de temps, Nathalie ?
Alors moi, je travaille dans le polyhandicap depuis 16 ans.
Depuis 16 ans, d'accord. Ouais. Et vous avez vu évoluer vos conditions de travail ?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je le résumerai comme ça, quand je suis arrivée dans l'établissement, je passais 70% de mon temps, on va dire, avec les résidents, en soins, etc., et 30% en administratif.
Oui.
Maintenant, je suis à l'infirmerie d'administratif, etc., à 70%, ça s'est complètement inversé, et je suis auprès des résidents et des équipes à 30%.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que les demandes sont différentes, et quand on demande beaucoup d'administratif, ma fiche de poste a évolué aussi dans le temps.
Oui.
Donc, ce qui fait que, comment dirais-je, tout ça s'est fait tout doucement, mais sûrement, vers cette inversion des choses qu'on me demandait, quoi.
D'accord, oui. Et le fait qu'il y ait de moins en moins de personnel, il y ait de plus en plus de difficultés à recruter, ça joue un rôle là-dedans ?
Je pense aussi, après moi, nous, là, pour l'instant, j'ai été, pendant très longtemps, j'étais la seule titulaire, pendant presque 18 mois, la seule titulaire en infirmière dans l'établissement.
Oui.
Donc là, il y a un poste, donc le premier poste de libre, il est resté vacant 18 mois, et ça y est, il y a eu une embauche là, qui a été faite depuis le 1er mars, et il y a un deuxième poste qui est libre depuis 13 mois.
C'est-à-dire que vous êtes toute seule pour faire le travail de trois personnes ? Vous étiez toute seule ?
Non, du tout. Non. Je suis toute seule en tant que titulaire.
D'accord.
Et heureusement, en fait, c'est des infirmières à la retraite qui nous ont sauvé la vie, entre guillemets.
Qui sont revenues.
Et qui nous ont permis de passer des caps très difficiles, surtout cet été.
Ah oui, c'est incroyable. Il faut aller chercher des gens qui sont partis à la retraite.
Ouais, tout à fait.
Oui. Alors, quelles sont vos conditions de travail actuellement, Nathalie ?
Alors actuellement, mais toujours pareil, il manque beaucoup de personnes titulaires, surtout sur les maisons, parce que c'est effectivement nous ce qui est important. Bon, les infirmières, c'est important aussi, mais c'est le personnel qui est au plus proche des résidents. Donc il y a toujours des postes vacants, on est toujours en recherche d'aides-soignantes surtout.
Oui.
Et il y a beaucoup, il y a énormément de remplacements, et ce qui a évidemment un impact sur la prise en charge des résidents.
Oui,
là,
sûr.
Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font des heures sup pour essayer de pallier ce manque de personnel et que ça impacte le moins possible les résidents.
Oui, ça les impacte de quelle manière, les résidents, les changements de personnes, les personnes qui restent peu longtemps ?
Disons, ça a plusieurs types, parce que ce sont des personnes qui ont besoin de beaucoup de repères quand même et qui ont des habitudes et la prise en charge d'une personne polyhandicapée. C'est pareil qu'une autre personne, mais c'est pas pareil. Il y a quand même tout un savoir-faire et un savoir-être avec eux. Donc, ça va être une augmentation des troubles du comportement, parce qu'on ne va pas les comprendre, parce qu'on ne va pas savoir anticiper un petit peu leurs besoins, oui. Et savoir, donc, les troubles du comportement vont être aggravés. Certains résidents, ils ne veulent pas manger avec des personnes remplaçantes. Ils vont refuser de s'alimenter.
Ah oui.
Ah, donc, ça peut aller...
catastrophique, voilà.
Ouais. Donc, ça va être, je peux dire, le manque de personnel, ça va être un report des rendez-vous médicaux. Parce que nous, ben, un rendez-vous médical, il faut qu'un personnel l'accompagne, parce qu'évidemment, il ne peut pas y aller tout seul. Donc, il nous est arrivé, surtout cette année, l'année dernière surtout, pardon, de reporter des rendez-vous médicaux parce qu'on n'avait pas de personne, on n'avait personne pour les accompagner. Oui. Et que le plus important, c'était d'assurer le minimum syndical et le bien-être des résidents sur place.
Très bien. Oui. Et alors vous, Nathalie, en tant qu'infirmière, vous avez un salaire d'à peu près combien ? Est-ce que c'est un salaire qui vous convient aussi ?
Alors, de toute façon, le salaire, c'est important, je veux dire, mais quand on devient infirmière, on sait très bien à peu près les sommes. Ça a augmenté avec le Ségur. Moi, je fais partie des anciennes. Je suis au maximum, entre guillemets, donc je ne pourrais pas gagner plus. Avec le Ségur, et on nous a mis une prime exceptionnelle. Je tourne maintenant à 2005, à 2006 à peu près.
Mmh. D'accord, en net.
Le nombre de dimanches, en net, ouais.
Oui. Oui. Et vous, voilà. Vous estimez que c'est suffisant ? Vos collègues estiment que c'est suffisant, ce type de rémunération ?
Non, parce que je veux dire, les nouvelles infirmières qui se sont présentées pour embaucher, il y avait quand même une très grosse différence encore avec l'hôpital et d'autres structures qui sont à environ de 300 euros pour une débutante.
Ah, c'est beaucoup, c'est beaucoup.
Oui, c'est énorme. Mais oui, c'est beaucoup.
Ah oui, oui, oui. Oui, donc
beaucoup. Une ancienne élève qui était venue, donc elle avait postulé, et quand on lui a donné la grille salariale, elle a dit non, quoi, parce qu'on lui proposait mieux ailleurs.
Oui. Et pour les débutants, ça, on touche combien en infirmière, en débutante ?
Je ne sais plus exactement. Oui, là, je vais vous dire une bêtise, donc je préfère ne rien dire, d'accord. Parce que je ne sais plus exactement.
Et alors vos collègues, j'imagine qu'ils sont dans cette idée qu'ils ne sont pas assez bien payés, c'est ça ? Il y a cette idée, cette constatation ?
Oui, parce que je veux dire, je pense que, je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de changer dans les mentalités aussi. Il y a la mentalité, les mentalités. Les plus jeunes infirmières attendre autre chose que nous, un peu plus âgés, on a baigné dans un truc et on avait l'habitude, c'était comme ça, ça faisait râler, mais on faisait. Que maintenant, les choses, elles évoluent, quoi. Les attentes sont totalement différentes aujourd'hui qu'il y a quelques années.
Oui, Nathalie, les jeunes sont plus exigeants, exigeantes également. En commençant, ils attendent plus de choses, plus d'avantages, etc.
Exactement. Oui. Et ils ont moins de... Et c'est normal, hein, je veux dire. C'est eux, il y a des choses qu'ils ne veulent pas et ils ne veulent pas. Et je pense que ça les... Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais les contraintes, ils n'en veulent pas, quoi.
Oui, d'accord.
Ils vont négocier, etc. Si on fait ce métier, on sait très bien qu'on va travailler samedi, dimanche, avec des horaires un peu décalés. Nous aussi, on a des horaires un petit peu, je veux dire, pour qu'ils aient une vie un petit peu normale. Une infirmière, ici, elle débauche à 22h le soir.
Oui. Et alors, oui, donc si ce n'est pas accepté, ça ne peut pas fonctionner.
Exactement. Donc, voilà.
Oui. Nathalie, vous restez avec nous. On va prendre en ligne Marie-Laure Lévesque. Bonjour, Marie-Laure.
Oui, bonjour.
Vous êtes monitrice éducatrice au foyer d'accueil médicalisé L'Étang Carré, donc à Dom-Martin, près de...
À Dom-Martin, Dom-Martin, dans l'ouest lyonnais.
Voilà, dans le Rhône. Et vous avez entendu Nathalie qui expliquait qu'aujourd'hui, il y a une évolution. Les jeunes qui arrivent dans ces métiers sont beaucoup plus exigeants, acceptent beaucoup moins de choses que par le passé. Et ça complique beaucoup l'embauche. Ça complique, évidemment, on trouve moins facilement du personnel.
Tout à fait. Et les jeunes, même les moins jeunes, hein, j'ai envie de dire, préfèrent des fois faire de l'intérimaire, être en intérim, donc pas s'engager dans une institution, parce que ça leur permet d'avoir un autre salaire.
Oui.
Et d'avoir une certaine liberté de pouvoir choisir les jours où ils veulent travailler, la durée et sur le temps, quoi.
Oui. Mais du coup, vous avez des manques dans vos établissements, ça peut pas fonctionner ?
Dans notre établissement, nous sommes quatre équipes. Sur les quatre équipes, il manque du personnel.
Oui.
Il n'y a pas une équipe qui est complète.
Oui.
Problème de recrutement. Donc, nous, on essaye de pallier au mieux à ce manque de personnel, c'est-à-dire qu'on fait des heures en plus.
Oui.
Si on est d'accord ou pas, on ne nous les impose pas, hein, mais bon, on n'a pas forcément envie, par esprit de solidarité et surtout pour qu'il y ait un accompagnement de qualité, on fait ses heures en plus pour pas que les collègues travaillent à deux ou voire seuls. Hein, il faut qu'on soit trois dans chaque roulement, hein,
oui,
pour avoir un accompagnement de qualité.
Oui. Nathalie Dutray, vous aussi, vous êtes obligée de faire des heures en plus par solidarité, justement.
Tout à fait. C'est tout à fait. Par exemple, là, un peu moins, je veux dire, au niveau infirmier, ça s'améliore un petit peu là depuis quelques semaines, voilà. Mais cet été, j'étais obligée de faire des heures, je veux dire, parce qu'il n'y avait pas d'infirmière le lendemain. Si je ne venais pas, il n'y avait pas d'infirmière.
Oui.
Donc, ça veut dire pas d'alimentation entérale passée, ça veut dire plein de choses. Donc là, bon, déjà, on vient, quoi. Et j'ai des collègues aussi, des AS et des AMP, pareil, je veux dire, qui font des heures sup, pour pallier justement le manque de personnel sur d'autres équipes.
Oui. Marie-Laure Lévesque, vous qui êtes monitrice, éducatrice dans un FAM, vous avez, qu'est-ce que vous pensez de vos conditions de travail? Évidemment, vous faites des heures supplémentaires, donc c'est compliqué, mais est-ce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas en dehors de ces heures supplémentaires?
On s'adapte au changement de planning. On sait que si on veut que ça tourne correctement, il faut s'adapter au changement de planning. On a une trame sur l'année, hein, comme on est annualisé, mais comme actuellement il manque du personnel, il faut pallier à ces trous, j'ai envie de dire, à ce manque de personnel. Donc on change nos horaires, donc ça a des conséquences sur la vie familiale ou personnelle.
Oui, oui, c'est très difficile. Vous avez des collègues qui arrêtent de travailler chez vous, qui vont partir ailleurs? C'est arrivé ça, Marie-Laure?
On a eu beaucoup de démissions il y a quelques temps. Là, ça s'est un petit peu calmé, si je peux me permettre de parler comme ça. C'est plus un peu plus stable au niveau des démissions, mais on a beaucoup de remplaçants, et entre autres des gens qui n'ont pas formé, pas diplômé, donc ça pose des problèmes. Ça veut dire qu'on a un double regard, on a notre propre regard sur notre travail qui nous demande une certaine énergie, une certaine attention, et en plus il faut qu'on fasse souvent attention à ce qui se passe à côté, le collègue remplaçant ou intérimaire qui fasse les choses correctement, ou qu'on ait le souci sur ce qui se passe au quotidien. Et les résidents, les usagers sont beaucoup plus demandeurs, et puis ce sont des personnes quand même qui ressentent bien ces difficultés, des fois notre fatigue, et qui un peu sont un peu le réceptacle de tout ça, et réagissent pas toujours très bien par rapport aux situations. Ça en fait pleurer certains de résidents, parce qu'ils voient bien ce qui se passe. Ils sont moins en demande de sortir à l'extérieur alors qu'ils en ont besoin. C'est un besoin, puis c'est fondamental aussi de pouvoir avoir des activités, une vie sociale.
Oui, oui. Donc vous travaillez dans des conditions plus difficiles, votre vie est affectée et celle des personnes que vous accompagnez également.
Tout à fait. Il y a la nôtre et puis surtout celle des résidents.
Oui.
Même si on essaye de faire au mieux, on a des chefs de service qui nous aident aussi à faire au mieux, hein, qui font en sorte qu'il y ait de trouver des remplaçants, mais ça ne fait pas tout. Il faut que les équipes soient au complet et des gens formés ou des gens qui sont en formation, je veux dire des gens qui ont envie de travailler sur du long terme et de s'engager.
Oui, et alors c'est difficile, il n'y a pas assez de moniteurs, monitrices, éducatrices qui sont formés actuellement, Marie-Laure Lévesque?
On a des AMP, donc des aides médico-psychologiques, et nous avons aussi des aides-soignants. Et actuellement, on a, en tant que moniteur éducateur, on est deux, et c'est le nombre de personnes, moniteurs éducateurs qui doivent être sur une équipe, mais nous, on manque d'aides-soignants, on manque d'AMP, on manque de plusieurs diplômes.
Oui, oui.
Plusieurs qualifications, donc plusieurs formations qui travaillent ensemble. On est une équipe pluridisciplinaire.
Et à combien se monte votre salaire, si ce n'est pas indiscret, Marie-Laure Lévesque, de monitrice éducatrice?
J'ai fait une moyenne sur 3 mois, c'est de 2100 euros, en sachant que j'ai 25 ans d'ancienneté dans l'établissement et j'ai 32 ans d'ancienneté dans la profession,
oui,
en étant diplômée. Dans mes 2100 euros, dans la moyenne, il y a mes heures que je fais en plus, ce sont des heures complémentaires, hein, non payantes, heures supplémentaires. et j'ai des dimanches, mais il peut y arriver qu'un dimanche, un week-end, un mois, j'ai pas fait de dimanche, mais c'est une moyenne sur 3 mois, 2 100 euros, en sachant aussi que je change de dernier coefficient cette année, et je serai au dernier échelon, et jusqu'à la fin de ma carrière, je ne serai plus augmentée.
Oui, oui. Donc,
il y a de la revalorisation du point.
Oui, donc j'imagine que c'est pas suffisant pour vous.
Non, et le Ségur, comme il s'est fait actuellement, commence à créer des conflits et une injustice.
Oui, vous ne serez pas revalorisé, Marie.
Je n'ai pas le Ségur.
D'accord, et vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez pas de revalorisation.
Je l'aurai que si je crois que ça n'a pas été signé encore au niveau du gouvernement.
Oui.
Pour l'éducatif, hein. Il me semble qu'on l'aura normalement au mois de juin et rétroactif à partir du mois d'avril. Mais
ça a été annoncé, Jackie nous dit.
Ouais. Oui, ce serait... Mais après...
Oui, il faut voir, il faut que ça arrive réellement. Sur le.
Oui, il faut que ça arrive, j'allais dire, je suis un peu comme Saint Thomas, je crois que c'est
oui.
Ce que je vois. Hein.
Exactement.
voilà.
Je reviens à Nathalie. Nathalie Dutray, infirmière aux femmes à Bordeaux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses?
C'est une bonne question. Je veux dire, je pense que c'est pas un problème, c'est un problème très général, quoi. C'est bon, les salaires, certes, pour que ça soit plus attractif pour les jeunes. C'est les conditions de travail.
Oui.
Ça, c'est énorme, les conditions de travail. C'est partir de son travail avec l'impression d'avoir fait du bon travail et pas avoir fait le minimum syndical et d'avoir survolé, de voir des résidents... heureux et épanouis avec leur handicap. C'est peut-être une nouvelle forme de management, j'en sais rien, d'accompagnement, je ne sais pas. Parce que quand même, c'est des soignants qui sont capables de donner énormément, qui peuvent être en souffrance, mais qui restent malgré tout, et puis à un moment donné, qui partent quoi, parce qu'ils n'en peuvent plus. Sachant que tous les départs chez nous, par exemple, ils sont variés, quoi. Ils sont très, très variés. Il y en a qui c'est à cause du Ségur, d'autres c'est à cause des salaires, d'autres parce que ils sont épuisés. Il y en a qui s'épuisent, hein, psychologiquement, ils sont épuisés et usés. C'est très varié. Donc, je trouve que c'est quelque chose de très global et c'est pas le Ségur qui va régler les choses. C'est pas,
oui.
Que les conditions c'est vraiment quelque chose de global.
Oui. Marie-Laure Lévesque, vous êtes d'accord avec Nathalie?
Je suis complètement d'accord, il n'y a pas que le Ségur. Quand on est rentré dans ce métier-là, moi, ce que je disais l'autre fois, j'en parlais, c'est qu'on savait très bien qu'on n'allait pas être riche, hein, entre
oui.
guillemets. Hein, après, le coût de la vie était différent. Hein, le coût de la vie était différent. Les conditions de travail étaient différentes. Il y avait peut-être moins de protocoles, moins d'exigences, un management peut-être un peu plus accessible. Et que là, je pense qu'on tire de tous les côtés.
Mmh.
Il faut redonner aussi du sens à notre travail, c'est important.
Oui.
C'est important. Et je pense que les écoles sont aussi en difficulté pour avoir des jeunes ou des moins jeunes, hein, c'est pas qu'une question de jeunes, avoir des gens qui ont envie de faire cette formation. Moi, je connais quelqu'un qui voudrait faire éducateur spécialisé, hein, qui aussi peut travailler dans le médico-social comme dans le social. La personne obligée de passer par Parcoursup, c'est pas comme ça qu'on voit si la personne a de la motivation ou le feeling ou l'envie de. Je pense qu'avant, la formule, l'entretien plus un écrit était beaucoup plus intéressante pour la personne et pour les gens en face. Maintenant, passer par Parcoursup, on choisit les 500 meilleurs. Après, on en choisit encore. Il y a des gens qui restent sur le carreau alors que certainement, ils ont des tas de pas de capacité, mais de feeling à faire cette profession-là.
Oui.
Donc il y a plein de choses à revoir.
Oui. Marie-Laure Lévesque et Nathalie Dutray, je vous remercie d'avoir participé à l'émission et d'avoir bien voulu témoigner sur notre antenne de Vivre FM.
Je vous remercie à vous.
Merci.
Au revoir, bonne journée à tout le monde.
Et très bonne journée.
Au revoir et bonne journée aussi. Au revoir.
Jackie, Isabelle, vous êtes toujours avec nous, vous êtes toujours dans le studio de Vivre FM. Un commentaire, Jackie, j'ai vu que vous preniez beaucoup, beaucoup de notes.
Oui, enfin, je prenais des notes... Je vais essayer d'être un peu synthèse. Y a quelques mots qui reviennent tout le temps. Il faut trouver des remplaçants.
Oui.
Tout le temps. Il faut trouver des remplaçants. Il y a des choses qui reviennent aussi. C'est on n'a pas fait ce métier par hasard. Ça revient aussi beaucoup. Il y a des choses qui reviennent aussi, il n'y a pas que l'argent, il y a d'autres choses. Alors, on parle de management, c'est un petit peu large, mais simplement dire qu'il y a un rapport qui a été fait par un monsieur, Denis Piveteau, qui est connu dans le monde du handicap, et qui parlait de réenchanter les métiers de l'humain. Je crois qu'on en est un peu là parce qu'on entendait il faut retrouver du sens, il faut se reconnecter à la mission, quoi, si je puis dire. Après, la difficulté des contraintes, on entend bien aussi contraintes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces dispositifs, ils fonctionnent 365 jours par an. On n'est pas, le vendredi à 16h jusqu'au lundi matin, on est toujours handicapé, quoi. C'est pas comme à l'école où on s'arrête d'étudier.
Oui,
là,
oui.
Donc, c'est vrai qu'il y a des contraintes, qu'il y a des contraintes assez fortes. On en revient peut-être à quelque chose de plus à hauteur, de manière... mieux rémunéré, on en revient un peu au salaire, mais pas que, je crois qu'il faut repenser ce métier un peu. Alors, je n'ai pas toutes les solutions, mais je crois que c'est un peu le sens peut-être de réflexions qui vont s'engager. Puis il faut simplifier les choses, il y a plusieurs conventions, enfin là après on rentre dans des choses un peu techniques, mais voilà, c'est ce que je notais.
Oui, et puis les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ne veulent plus se consacrer à leur travail peut-être comme ils le faisaient auparavant. Hein, leur vie privée passe avant tout. Isabelle, qu'en pensez-vous?
Oui, ça se ressent vraiment. Moi, si je l'illustre très concrètement sur un pool d'une dizaine d'infirmières et d'infirmiers, les postes qui sont aujourd'hui pourvus et sur lesquels ça n'a pas bougé, c'est les postes du lundi au vendredi de 8h à 16h. Ceux-là, ils sont plutôt plébiscités. Et même si, en fait, elles gagnent moins d'argent parce qu'elles n'ont pas les primes de dimanche, de férié, mais il y a un vrai changement au niveau de la relation au travail et des conditions de travail, ça c'est clair, qu'on retrouve aussi chez le personnel éducatif, parce que comme le disait à juste titre une des deux personnes, Madame Lévesque, il me semble, c'est qu'en fait, ben oui, il faut travailler parfois, prendre son service à 6h et celui qui débauche débauche à 22h et passe le relais aux surveillants de nuit. Il y a aussi une relation au travail qui a bougé, enfin moi ça fait maintenant quelques années que j'y suis, hein, 95, ça date d'il y a quelques années en arrière. Mais on est de plus en plus confrontés à des personnes, alors souvent remplaçantes, qui un quart d'heure avant de prendre le poste, et parfois poste de nuit, vous téléphonent en disant bah, « finalement, je ne viens pas ».
Donc,
c'est ce qui met en grand stress les cadres. Et j'entendais effectivement les deux professionnels dire on a besoin d'un management de proximité, mais je crois qu'on n'imagine pas le stress et la fatigue des personnels aussi encadrants. Enfin, je crois que c'est vraiment... c'est vraiment, quand je parlais de dérégulation du secteur, c'est vraiment à tous les niveaux, à tous les niveaux.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Ben, ce qu'il faut faire, le réenchantement, c'est un terme que j'apprécie, mais je pense qu'il y a une culture, effectivement, de l'aide à la personne à réinsuffler. Il est question de solidarité aussi là-dedans. Peut-être sortir d'une société un peu trop individualiste. Je disais tout à l'heure, l'intérim, ben oui, aujourd'hui, les remplaçants, les intérimaires choisissent ces modes de travail parce qu'ils choisissent leurs horaires, leurs vacances, et en plus, ils gagnent mieux. Je pense qu'il faut valoriser financièrement, ça c'est sûr, et y compris les anomalies ou les horaires atypiques, ça je crois qu'il faut vraiment s'y consacrer. Il faut cesser effectivement les recrutements via parcours sup, que là on passe à côté de vraies vocations, qu'on retrouvera peut-être, mais dans quelques années, et en tout cas c'est aujourd'hui que ça pose réellement problème. C'est un modèle de société qu'il faut revoir, hein. Être tourné vers l'autre, c'est important.
Oui, on est moins tourné vers l'autre aujourd'hui, mais pourtant il y a tellement de jeunes qui s'intéressent aux associations humanitaires, qui partent et pas dans ces métiers, ils vont plus vers ces métiers.
Alors il faut qu'on les fasse connaître, on est très mauvais en communication dans le secteur médico-social. C'est pour ça que ce film documentaire, j'espère que ça c'est une petite pierre à l'édifice et peut-être que ça donnera envie à d'autres de pouvoir mettre en image notre quotidien.
Voilà, alors ce film documentaire, personne, on va pouvoir le voir où ?
Alors, d'une part, pour le voir, je dis, il faut juste s'inscrire. Vous allez sur paralysiecérébralefrance.fr et vous pouvez vous inscrire pour ce soir. Tout d'un coup, j'ai juste un petit peu... C'est au Gaumont, vers les Gobelins.
Dans le 13e.
Dans le 13e, voilà, c'est ici. Et l'accueil se fait à partir de 18h30.
Très
bien. La soirée commence à 19h. Il y aura donc le documentaire qui va être projeté. Et ensuite, nous avons invité tous les candidats à l'élection présidentielle. Alors, ce n'est pas les candidats qui viennent, mais en tout cas leurs représentants. Tous les partis ne sont pas représentés, mais il y a quand même 4 partis de représentés. Et on va leur donner la parole pour avoir à la fois leur ressenti suite au documentaire et bien sûr leur proposition, s'ils en ont. Et puis, bien sûr, un échange avec la salle. Voilà.
Très bien. Et donc ça, c'est ce soir,
c'est la
première projection du film. On pourra le voir par la suite.
Alors, je crois qu'il y a quelques avant-premières. C'est un peu comme le cinéma de manière générale. Il y a quelques avant-premières. Et puis ensuite, après ces avant-premières, il y aura certainement une proposition de lien qui sera faite. Mais pour l'instant, on joue quand même un peu sur la découverte du film pour vraiment le partager ensemble. Quoi. Voilà.
Très bien.
Et pas forcément en replay. Tranquillement chez soi.
Oui, oui,
voilà.
De pouvoir en parler,
en
discuter.
Parler, voilà, tout
très
à fait.
Bien, ça,
on essaye de faire œuvre de... Et puis en parlant, peut-être qu'on peut aussi trouver les solutions, les pistes.
Bah on l'espère en tout cas. Donc rendez-vous ce soir au Gaumont, dans le quartier des Gobelins, à Paris, dans le 13e. Merci Isabelle Moreno, directrice de la RIMOC. Et merci à vous, Jackie Vagnoni, président de Paralysie Cérébrale France. Merci d'avoir participé à cette émission.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.